nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Nous passons une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, si je vous dis insectes pollinisateurs, vous pensez certainement aux abeilles, et vous avez raison, mais d'autres insectes pollinisateurs virevoltent dans nos jardins et ont leur importance dans notre écosystème. Ce sont les papillons, les coccinelles ou encore les mouches. Pour parler avec nous de l'importance de ces différentes espèces et de la mise en place partout en France du suivi photographique de ces insectes pollinisateurs, le SPIPOL, Romain Julliard est avec nous. Romain Julliard, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Vous êtes maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle, pilote scientifique de Viginature depuis 1999 au Muséum et initiateur du suivi photographique qui porte donc le nom de SPIPOL. C'est une longue histoire entre les fleurs et les insectes qui a commencé il y a 250 millions d'années. Les fleurs ont-elles besoin d'être pollinisées par les insectes ?
Non, il y a deux autres types principaux de pollinisation. Il y a d'abord la pollinisation par le vent qui va concerner notamment toutes les herbes et toutes les plantes finalement qui font des fleurs très discrètes et où on peut voir des nuages de pollen transportés par le vent. Et puis une autre série de fleurs qui va être auto-pollinisée, donc où la pollinisation va directement aller sur les stigmates. Alors c'est le cas notamment de fleurs cultivées, le maïs par exemple, a perdu la nécessité d'être pollinisé par le vent ou par d'autres choses, et comme ça, ça assure un meilleur rendement.
Alors les insectes pollinisateurs sont-ils importants pour polliniser les autres fleurs ?
Oui, la pollinisation par les insectes, ça concerne 80% des espèces de plantes, même pour les fleurs cultivées. Il y en a beaucoup qui ont besoin de ces insectes, tous les arbres fruitiers notamment, toute la famille des cucurbitacées, les courges, les courgettes, concombres, potirons, etc. Et on estime que ça représente 35% de notre alimentation, qui a besoin de ces insectes pour que la fécondation se fasse, que les fruits arrivent à maturité.
Alors avant d'en venir à ces insectes, arrêtons-nous juste quelques instants sur ces fleurs qui rusent pour pouvoir être pollinisées, pour pouvoir être fécondées. Alors certaines ont des odeurs attirantes, même parfois des phéromones pour pouvoir attirer ces insectes. Quelles seraient les autres ruses de ces fleurs ?
Alors la principale, c'est une ruse tout à fait pour les gourmands, c'est le nectar. Donc c'est un liquide sucré, très énergétique, qui va être une source de nourriture pour énormément d'insectes. Et la plupart qui viennent sur ces fleurs viennent pour le nectar. Le pollen en soi peut être aussi consommé. Il y a des espèces d'abeilles sauvages qui se spécialisent dessus. Puis c'est par exemple pour l'abeille domestique ce qu'elle utilise pour construire, faire la cire et construire ses rayons. Et puis effectivement d'autres, des odeurs, des couleurs aussi pour guider ces insectes. Et tout ça en fait pour attirer bien ces insectes. Alors le but de la fleur, c'est qu'un insecte transporte du pollen d'une fleur à une autre. Donc il y a certains groupes d'insectes qui vont faire ça beaucoup plus efficacement que d'autres, notamment tous ceux qui vont ramener du pollen pour nourrir leurs larves. Du pollen ou du nectar. Et donc, eux vont collecter, aller d'une fleur à l'autre, butiner, et transporter du pollen accidentellement. Évidemment, les insectes, en général, ne font pas exprès de polliniser. C'est quelque chose qui se passe tout à fait incidemment. Mais à partir du moment où ils visitent plusieurs fleurs, il y a une chance pour que cette pollinisation ait lieu.
Alors, venons-en à nos insectes pollinisateurs, nos amis insectes pollinisateurs. Est-ce que ce sont les abeilles championnes de ce principe de polliniser ?
Alors, effectivement, les abeilles, l'abeille domestique, on dit abeille mellifère aussi, est parmi les meilleurs pollinisateurs. Mais en fait, comme toute la famille des abeilles sauvages, c'est quelque chose comme 900 espèces rien qu'en France, une très grosse diversité. Donc, ça comprend les bourdons et puis d'autres espèces d'abeilles, des abeilles solitaires, notamment les espèces coloniales, comme les abeilles domestiques, mais il y en a bien d'autres. Où un très grand nombre d'individus vont circuler d'une fleur à l'autre pour amener pollen et nectar. Chez ces espèces, il y a souvent des organes un petit peu particuliers, des corbeilles à pollen sur les pattes arrière, qui leur permettent de faire ces transports. Mais c'est surtout du pollen qui est accroché finalement un petit peu partout autour de l'insecte qui va assurer la pollinisation. Et d'ailleurs, le pollen des plantes qui ont besoin de ces insectes est souvent assez collant, et on peut voir sur des renoncules ou des pissenlits des insectes complètement recouverts de pollen, et particulièrement visibles sur les photos, qui est bien la preuve qu'il y a cette potentialité de pollinisation par ces insectes.
Là, ce sont pour les abeilles, mais il y a d'autres insectes, les papillons bien
Alors,
sûr.
Voilà, en fait, il y a énormément d'insectes qui profitent de cette manne, qui est le nectar. Les papillons avec leur trompe qui leur permet d'aller plonger, aspirer le nectar au fond des fleurs. énormément d'espèces de mouches aussi, plus ou moins spécialisées. Hein, là, une grande famille très spécialisée sur les fleurs, la famille des syrphes.
Qui ressemble un peu à une abeille un petit peu. Hein,
voilà, très souvent elles sont
noires et jaunes.
Elles sont noires et jaunes parce que bon, les abeilles ont des défenses, des dards qui leur permettent de se protéger contre des prédateurs et du coup ont développé ces couleurs vives pour qu'on les reconnaisse. Et des mouches, on profite pour les imiter, pour se faire passer pour des guêpes et que les prédateurs les évitent. Puis à côté de ça, il y a d'autres espèces d'insectes, des coléoptères, il y a des insectes qui sont très spécialisés sur les fleurs, les cétoines, des longicornes. Alors après, il y en a d'autres qui viennent de temps en temps. Les coccinelles peuvent grignoter un grain de pollen par-ci par-là, mais c'est pas leur nourriture principale. Et bien d'autres, des espèces de punaises. C'est vraiment une petite jungle qu'on a à portée de main, finalement, à portée d'œil.
Alors une petite jungle qui, aujourd'hui, semble menacée, mais est-ce que l'on a des chiffres pour pouvoir quantifier cette menace?
Alors, on a des chiffres sur l'abeille domestique et les apiculteurs nous alertent sur des mortalités très importantes qui peuvent atteindre 30, 50, 70% des ruches qui ne passent pas l'hiver d'une année sur l'autre et qui sont des mortalités tout à fait exceptionnelles, bien au-delà de la mortalité naturelle de ces ruches.
C'est la conséquence des pesticides?
Alors, c'est une conséquence qui est multifactorielle. Ça, il y a un consensus autour de là. Probablement qu'à la base, c'est un problème de ressources alimentaires. Les abeilles ont besoin de nectar, mais elles ont besoin aussi d'une diversité dans leur régime alimentaire qui va être constituée par plusieurs espèces de fleurs et des nectars différents, des pollens différents. Et la baisse de diversité de la flore spontanée, sauvage, en fait, semble affaiblir d'une manière générale les abeilles qui deviennent susceptibles à d'autres causes de mortalité beaucoup plus directes. Alors ça peut être des pesticides. On a des évidences fortes comme quoi certains pesticides peuvent causer des effondrements brutaux chez ces espèces. Ça peut être des parasites. Hein. On a entendu parler du varroa, le pou des abeilles, qui peut décimer aussi ou affaiblir tellement une ruche qu'elle finit par en mourir. Mais c'est pas la cause immédiate. En fait, c'est la cause immédiate de la disparition, mais la cause fondamentale, c'est cette diminution des ressources et en termes de diversité vraiment de ces ressources.
Là, vous parlez des abeilles, mais est-ce que l'on dispose d'autres éléments pour d'autres insectes?
On sait que certaines espèces très spécialisées, de bourdon par exemple, ont énormément régressé, parfois très rapidement de mémoire d'entomologistes. Ils ont pu voir en quelques années des populations florissantes disparaître. À côté de ça, il reste des espèces très communes, très abondantes. Et on a une assez mauvaise image en fait de la quantité d'insectes qui restent et de leur diversité. Et c'est une interrogation qui est importante parce que la pollinisation est d'autant plus efficace qu'il y a une bonne diversité d'insectes qui fréquentent une fleur. Même si une abeille est capable de transporter très efficacement du pollen d'une fleur à une autre, souvent la conjonction de différentes espèces, parce que la fleur va être un petit peu déformée, le pollen plus accessible à l'espèce suivante, ou d'autres mécanismes, fait que plusieurs espèces sont plus efficaces pour polliniser une espèce de fleur qu'une seule espèce de pollinisateur. Et puis d'autant plus s'il existe plusieurs espèces de fleurs. À ce moment-là, si on n'a qu'une seule espèce, elle a tendance à se spécialiser et à laisser de côté les autres espèces de fleurs. Donc c'est un petit peu tout ce réseau d'interaction des fleurs et d'insectes qui assure un bon fonctionnement de cette pollinisation et qui pourrait être menacée actuellement.
La diversité engendre la diversité.
Voilà, la diversité a besoin de la diversité pour fonctionner. Alors, c'est des phénomènes qui sont très résilients, c'est-à-dire qu'il y a besoin de beaucoup de perturbations avant que le système s'effondre. Et du coup, c'est un petit peu cette impression que les choses vont bien parce qu'elles s'affaiblissent, mais avant que ça devienne visible et qu'on le perçoive, eh bien, il y a un temps de latence. Hein. Heureusement, parce qu'il y a des tas de perturbations naturelles auxquelles ce système doit résister. Mais du coup, ça peut fausser l'impression que bah, finalement, la nature fonctionne toujours aussi bien. Et on craint des effondrements brutaux, comme on les observe sur l'abeille domestique.
Est-ce que l'effondrement brutal ou l'effondrement tout court d'une espèce d'insecte pollinisateur, puisque c'est notre thème aujourd'hui, est-ce que cet effondrement peut engendrer parallèlement le développement d'autres espèces? Je pense au frelon asiatique, mais je ne sais pas s'il entre dans ce cadre-là.
Alors le frelon asiatique, c'est un petit peu particulier. C'est une espèce qui vient d'arriver sur notre territoire, qui est un prédateur. Il peut consommer un peu de pollen par-ci par-là ou de nectar s'il a faim. Mais sa principale source de nourriture, ce sont d'autres espèces d'insectes, tout comme le frelon commun. Et il se développe, il prospère très, très rapidement à partir d'un foyer d'introduction dans le sud-ouest de la France. Et en quelques années, il a vraiment colonisé toute cette moitié ouest de la France. Et on observe actuellement des remontées, un front de colonisation vraiment. Donc bah, ça pose des inquiétudes parce que c'est un nouveau venu dans la faune de France.
Il est arrivé en 2004 et
voilà,
il a déjà colonisé toute une partie, tout un département, toute une région même.
Et ça semble effectivement assez inexorable. Maintenant, le frelon qui attaque de manière assez spectaculaire les abeilles en venant se poster à proximité des ruches et en venant prendre des...
Il fait des prélèvements ?
Voilà, donc il se nourrit à sa faim, mais c'est très visible. Et contrairement aux frelons européens qui chassent plutôt sur les fleurs, consomment des abeilles depuis qu'il existe.
Alors, pour en revenir à ma première question, du coup, effectivement, on a divergé sur le frelon asiatique. Est-ce qu'il y a des espèces qui périclitent au profit d'autres qui peuvent se développer?
Alors, les synthèses qui ont essayé de collecter au niveau européen, notamment Angleterre et Pays-Bas, des données sur ces cortèges d'insectes ont montré que le grand groupe des abeilles et bourdons avait tendance à diminuer et le grand groupe des mouches et des cirfes en particulier était plutôt stable, voire en augmentation dans certaines zones. Peut-être justement à cause d'une compétition qui s'est un peu relâchée et donc plus de disponibilité alimentaire. Le problème, c'est que les cirfes sont beaucoup moins efficaces, comme elles n'ont pas besoin de rapporter de pollen. Alors là, eh bien, elles assurent moins bien la pollinisation. Et d'ailleurs, ça s'accompagne d'un déclin des espèces de plantes à fleurs spontanées, notamment dans tout ce qui est dans les bords de route, les bords de chemin, les choses comme ça, au profit de plantes pollinisées par le vent, qui sont plutôt une couverture plus importante, etc. C'est des conjonctions d'observations qui laissent penser qu'il y a des changements effectivement en cours déjà assez importants.
Est-ce que le déclin de ces insectes pollinisateurs pourrait à terme provoquer un déclin économique sur le plan de l'agriculture ?
Alors on a déjà des situations qui sont assez spectaculaires dans certaines régions de Chine où les paysans sont obligés de fertiliser à la main les cerisiers. Donc ça peut marcher sur des petites surfaces et en Chine où la main d'œuvre est relativement peu chère, mais évidemment c'est pas envisageable du tout à d'autres échelles. Il existe aussi un commerce de bourdons d'élevage qui est surtout pour les cultures sous serre, mais qui aussi peut être l'occasion développée. Puis les cultures qui ont besoin d'abeilles, très souvent se font un partenariat avec les apiculteurs pour qu'une ruche soit déplacée dans les vergers au bon moment pour que la pollinisation ait lieu. Donc il y a tout lieu de penser que plus de pollinisateurs sauvages, ça serait déjà utile dans certaines situations. On voit bien, quand on regarde le taux de pollinisation, le taux de fécondation plutôt, dans des paysages cultivés, que la pollinisation est beaucoup plus efficace en bordure des champs, près des milieux naturels, qu'en plein milieu. Preuve encore que les pollinisateurs sauvages jouent un rôle dans cette pollinisation. Donc c'est un problème qui est posé. Est-ce que plus de déclin, si le déclin continue, est-ce que ça finirait pas par poser vraiment de sérieux problèmes économiques ? C'est une vraie question.
La question reste encore posée. On va venir dans quelques instants au Spipol. Auparavant, j'ai une toute petite question. Moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est que deviennent ces insectes en hiver ? Les abeilles ?
Alors, les abeilles domestiques, une petite partie de la colonie va hiverner, rester dans sa ruche et être les premières au printemps à repartir à la recherche de pollen pour nourrir les premières larves qui seront pondues par la reine au moment des beaux jours. Chez la plupart des espèces, les insectes meurent et c'est soit une pupe, des œufs ou des larves qui passent l'hiver. Chez les bourdons, par exemple, c'est plutôt les reines solitaires qui vont être fondées des nouvelles colonies au beau jour, donc au premier jour du printemps. Donc c'est toutes sortes de stratégies qui peuvent exister. Il y a aussi des espèces qui sont des grands migrateurs dans tous les groupes, hein, des mouches, des papillons, où les adultes vont retourner vers le sud, souvent pour assurer une nouvelle génération qui va, au printemps, repartir vers le nord.
Donc tous les cas de figure existent. Hein.
Voilà, ça c'est intéressant aussi, dès qu'on s'adresse aux insectes, c'est l'énorme diversité de leur écologie, qui est assez fascinante quand on regarde en détail.
La transition est toute trouvée. Venons-en à tous ceux qui s'intéressent aux insectes. Il existe depuis mai 2010 un site qui s'appelle Spipol, suivi photographique des insectes pollinisateurs, que vous avez mis en place, Romain Julliard. En quoi cela consiste ? Il suffit de prendre des photos d'insectes en train de butiner, par exemple, et après de mettre ces photos sur ce site internet ?
Alors ça, c'est la base, hein. C'est l'objectif, c'est d'accumuler de la connaissance sur la distribution de ces espèces dans différents types de paysages, sur différents types de fleurs, en s'adressant au plus grand nombre d'observateurs possible. Et compte tenu de la diversité des espèces et du faible nombre de spécialistes qui sont capables de les identifier, on a recours à la photo amateur, effectivement, pour collecter cette information. Donc ça veut dire que tout le monde peut participer, pourvu qu'on a un appareil photo et un accès à Internet. Alors il ne s'agit pas juste de prendre des photos, il y a un protocole à suivre. L'idée, c'est d'établir une collection, en fait, une collection de photos de toutes les espèces qui vont venir se nourrir sur une espèce de fleur qu'on commence par sélectionner. Les pissenlits de sa pelouse, un cerisier... ou en promenade, en pique-nique, une orchidée, une jolie fleur qu'on voit butiner ces insectes. Et pendant 20 minutes, on part à la chasse photographique. On s'efforce de photographier tout ce qui bouge sur ces fleurs. Ensuite, on revient chez soi et on va trier un petit peu ce matériel pour sélectionner une photo par espèce d'insecte. Et dernière étape, c'est de déterminer en fait ces photos, ces insectes, à l'aide d'une clé d'identification qu'on a développée, qui est accessible en ligne, et qui permet, par des questions uniquement basées sur des critères qu'on peut voir sur des photos, sans connaissance préalable, de donner un nom pour la plupart de ces espèces.
Il ne faut pas être entomologiste à la base. Tous ceux qui s'intéressent un peu aux insectes peuvent participer.
Absolument, il suffit de s'intéresser même à la nature, d'avoir un goût pour cette chasse photographique, c'est un petit peu le départ. Et puis pour la collection, pour la détermination, je pense que tout naturaliste de salon peut comme ça s'exprimer et faire un petit peu un safari dans son jardin, un safari photo qui est assez palpitant dès qu'on s'y met.
À quoi cela va-t-il vous servir, Romain Julliard, et aux autres chercheurs, je pense, qui se cachent derrière ce site Spipol?
On est plusieurs au muséum à attendre avec impatience ces données parce qu'elles vont nous apprendre, on l'espère, beaucoup sur ces aspects de quantité de pollinisateurs, de diversité de pollinisateurs dans différents type de paysage. On encourage vraiment les participants à photographier, à faire ses collections depuis le centre des villes jusqu'à la campagne, depuis les plaines agricoles jusqu'aux milieux les plus naturels, en fait pour comprendre comment cette diversité s'organise entre ces différents types de paysages, pour tester certaines hypothèses. Est-ce que la diversité est affaiblie, la quantité de pollinisateurs est affaiblie en milieu agricole, dans les centres-villes? Ou est-ce que, comme les apiculteurs nous le disent, les villes pourraient jouer le rôle de refuge, puisqu'actuellement, les ruches produisent plutôt plus de miel dans le centre des villes qu'à la campagne, ou en tout cas qu'en pleine céréalière. Donc c'est un petit peu ce type de questions qu'on veut répondre dans un premier temps, et puis après, aller un peu plus loin, de comprendre ces réseaux d'interaction fleurs-insectes, comment ils sont structurés, comment cette structuration peut nous informer sur l'état de la biodiversité. Et puis derrière chaque espèce se cache aussi une écologie très diversifiée, donc c'est comprendre comment s'organisent les chaînes alimentaires de ces insectes, puisque souvent le prédateur est sa proie, on a parlé du frelon tout à l'heure, mais souvent aussi le parasite du bourdon, le parasite de l'abeille qui viennent se nourrir sur les fleurs. Et puis toutes sortes d'autres stratégies écologiques. Parmi les cirfes, par exemple, il y en a beaucoup dont les larves se nourrissent de pucerons, d'autres dont les larves sont détritivores. Et donc leur présence nous indique quelque chose sur ce qui se passe, sur un petit peu sur l'écologie qui est autour. Donc c'est un petit peu un matériel fantastique pour décrire la biodiversité, comprendre comment elle se trouve. Cette biodiversité est très ordinaire. Notre cœur d'étude, c'est finalement la nature qui nous entoure, parce que c'est celle qui assure une partie de notre bien-être. Notre bien-être parce qu'on y aime s'y promener, la voir au quotidien, mais aussi parce que c'est cette nature ordinaire qui va assurer la purification de l'air, de l'eau, tout un type de régulation. Le maintien finalement d'une fonctionnalité écologique, que les sols soient toujours fertiles, que les forêts continuent à pousser, etc. Donc c'est une source de données très importante, potentielle, sur cette nature.
Et pour que vous puissiez exploiter ces données, il vous faut de l'information, donc j'ai envie de dire participer à ce site Spipol. Qu'indiquer de plus à ces auditeurs qui voudraient faire l'essai de vous envoyer des photos?
Oui, je crois qu'il faut d'abord essayer et puis surtout le faire si ça vous plaît. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de plaisir à prendre, à participer dans ce jeu avec ces insectes, comment les traquer au départ, apprendre à les reconnaître aussi, comprendre cette énorme diversité, quelques 5000 espèces potentielles dans ces collections. Donc on n'a pas fini d'apprendre en participant. Je pense qu'il faut commencer, puis ensuite, si ça vous plaît, on continue.
Merci Romain Julliard. J'indique plusieurs sites. Le premier, spipol.fr. Le deuxième, Viginature. Également intéressant pour avoir quelques informations quand même supplémentaires sur le fonctionnement de ces insectes et de cette nature si proche. Et puis également le Muséum National d'Histoire Naturelle, mnhn.fr. Merci Romain Julliard. J'indique à nos éditeurs que ces informations seront aussi sur notre site internet canalacademy.com. Merci Romain Julliard. Merci. Et j'espère à bientôt pour de prochaines émissions. Au revoir.